Hôpital de Quimper, 11 juillet 2023.
Ouais, salut. Et du coup, ouais, là, je suis aux urgences. Je sais pas ce que c'est, mon truc. J'ai vraiment la jambe qui a doublé de volume, la cheville aussi. Ça me fait super mal, je peux à peine marcher. Voilà, j'espère que c'est pas grave, mais voilà, c'est pas très cool.
Cette hospitalisation, elle raconte des limites. Celle de Bruno, de son corps, et peut-être d'autres choses aussi. 6 mètres 50.
Un mini, c'est un bateau de 6 mètres 50 qui est dessiné pour faire de la course au large en solitaire.
Un documentaire de Domitil de Vevey.
On est à 200, un peu plus de 200 000 de l'arrivée, du coup normalement demain on arrive. Allez !
Bruno, le genre de Pokémon qu'on aime croiser. J'ai eu son bateau sur la ligne de départ au Sable d'Olonne, je me dis lui, j'ai envie qu'il gagne. Pourquoi ? Parce que son bateau est tout simplement incroyable. C'est le seul qui a osé, qui a vraiment fait un truc genre délire de A à Z. Bruno, on se revoit en Guadeloupe et j'espère que tu seras ben, genre premier quoi.
Attention pour le départ. 5, 4, 3, 2, 1.
Top. Épisode 3, Sea is the Limit.
Avant, il y avait un lac. Avant, il y avait un lac.
Salut, moi c'est Domitil. J'ai le mal de mer, je n'y connais rien à la course au large, mais j'adore les histoires. Alors quand mon pote Bruno m'a dit qu'il allait traverser l'Atlantique sur un tout petit voilier, j'ai embarqué immédiatement avec mon micro. Ce podcast, c'est notre traversée à tous les deux. Enfin, surtout la sienne. Au printemps 2023, Bruno reprend la saison des courses au large. Il est en pleine forme. Mieux, il a la gagne.
Je suis super content d'arriver premier. C'est la première course que je gagne en solo et c'est trop cool.
La Pornichet Select se termine sur le podium pour Bruno, qui gagne la première place dans sa catégorie et il n'en revient pas.
J'étais vraiment pas venu dans ce projet pour gagner, quoi, et c'est trop cool que ça marche. Ça valide plein de choses et plein de travail. Je me mets pas d'objectif quand je navigue et je pense que c'est ça qui est bien aussi, c'est que je navigue super détendu et c'est chouette.
Comment tu te sens là ?
Là, tout de suite, je me sens comme d'hab en retour de course, dans une espèce de brouillard, de manque de sommeil. Je suis super content, en fait, parce que Callisto, c'est un bateau que j'ai vraiment bichonné tout l'hiver. J'ai fait une super déco. Enfin, c'est une fusion, quoi. C'est cool de réussir ça. Enfin, j'avais, en passant la ligne d'arrivée, j'avais vraiment l'impression qu'on avait fait ce truc-là à deux, quoi.
Qu'est-ce que ça signifie, être premier en série ? C'est premier dans la catégorie bateaux qui ne sont pas des prototypes, c'est ça ?
Ouais, c'est ça. Il y a deux catégories. Il y a les prototypes. Donc, c'est une jauge ouverte. Ils ont droit à tous les matériaux et ils ont droit à plein d'artifices qui sont interdits en série. Par exemple, des dérives, des foils, le carbone, les maçons en carbone. Et dans une logique de réduction des coûts, il y a eu la catégorie série qui a été créée. Donc, c'est des bateaux plus simples, avec beaucoup moins de mécanique, moins d'éléments mobiles. Les mâts sont en alu, les coques sont en polyester et en fibre de verre. Et donc, c'est des bateaux beaucoup moins chers et beaucoup plus simples, mais qui vont moins vite aussi. Et donc, il y a ces deux catégories qui sont très différentes. En série, en fait, on a des bateaux assez proches. Enfin, il y a certains types de bateaux qui sont validés. Donc, on va dire qu'il y a une dizaine de bateaux en ce moment différents qui naviguent en série. Mais le niveau est assez haut parce que comme les bateaux sont très connus, les gens s'entraînent, on partage les réglages, etc. Donc il y a un niveau assez haut. Tandis qu'en proto, il y a un niveau très haut aussi. Mais l'enjeu, il est aussi de développer le bateau et de l'améliorer. Alors que nous, on n'a pas cet enjeu-là. Notre bateau, il est figé. Et du coup, c'est sur l'eau qu'on fait la différence, quoi.
Après la course, Bruno et moi retournons à son camion pour qu'il y dépose certaines affaires et en prenne d'autres. Depuis le début du printemps, il est passé en mode vagabond Et ce camion, c'est un peu devenu son chez-lui. Je lui demande ce que ça change d'être détendu en course.
Quand je vois des gens qui s'énervent quand ça marche pas, je me dis que ça les aide pas à prendre les bonnes décisions après. Hein. Tu vois ? Il y a des gens, ils se mettent à taper sur leur bateau et tout. Il y en a un, il a fracassé sa baume avec sa manivelle de winch.
De rage.
Ouais, de rage. Non, mais en fait, ça te met dans des états émotionnels de ouf. Hein, parce que comme tu dors pas, t'es tout seul, ça dure du temps et tout. Enfin, déjà, même au bout de 24 heures, t'es dans un état chelou. Hein. La question de la confiance en soi est centrale. Et justement, moi, ça me parle pas trop parce que je pense que j'ai pas trop ce problème-là, quoi. À la fois, je crois que j'ai assez confiance en moi et en mes capacités et tout. Après, là, j'avoue que à force de gagner des trucs et tout, je pense que ça va commencer à me mettre la pression.
Ce matin, Callisto est inspecté de fond en comble pour le contrôle de sécurité d'une course décisive, la Mini en mai 2023.
Vas-y, installe-toi là. Alors, des choses à sortir du bateau. Genre, ce mat l'a crevé. Est-ce qu'il est crevé ? Il est donc inutile.
Un moment où la rigueur et le souci du détail ne sont pas un luxe, mais une condition.
Tu vois, on est un peu dans ce mode-là quand on passe son matos dans le bateau, on est tout le temps rempli.
Faut être méga souple pour faire.
Ouais, faut être assez souple. Hein? Bah là, c'est des petits bateaux, surtout c'est pour ça.
Callisto est sans dessus dessous.
Oh, c'est un peu le bordel dans ce bateau là. Partout du bateau.
Plus les courses sont difficiles, plus les contrôles de sécurité sont exigeants. Chaque détail compte.
Ça, c'est l'encre.
La Mini en mai, c'est une étape clé. Une course technique, redoutée, respectée.
La Mini en mai, ce qu'elle a de spécifique, c'est premièrement, c'est une des courses longues de la saison, parce que c'est 500 000, donc des courses de 500 000, il n'y en a pas tant. Les courses d'avant-saison, donc hormis la Transat et la course des Açores, elles font entre 250 et 600 000. 600 000, c'est le Fastnet. La Mini en mai, c'est 500 000. Il n'y en a pas tant que ça. Donc pour ça, elle est très intéressante parce que c'est une course qui permet de se mettre quasiment en condition. On reste suffisamment de temps en mer pour commencer à vraiment gérer un rythme de vie, une vie à bord, comme on dit.
Cette année, ils sont 100 bateaux sur la ligne de départ.
Elle fait partie du championnat de France de course au large en solitaire et donc elle permet d'accumuler des points pour le championnat. Et les bénévoles ont l'air sympas.
Les bénévoles, ce sont eux.
Donc c'est quoi, c'est un pogodeux ça ?
Ceux qui veillent au grain. Avant chaque course, ils passent au crible le moindre recoin du bateau. Et rien ne leur échappe.
Ah, c'est un trou.
Rien.
Ah bah oui. Alors. C'est un bon bateau, super. Bah il a gagné la dernière course.
La dernière, c'est avec toi ?
La Pornichet Select, ouais.
C'est toi qui l'as gagné ?
Ouais.
Bien.
Bravo.
Merci. Donc tout est bon alors ? On peut repartir.
J'ai fait le contrôle à Pornichet, mais je pense qu'il y a des choses en plus.
Alors, ton nom, c'est bien Le Munier. C'est ton ça. Téléphone, c'est combien ?
T'as pas de panneau solaire ?
Je vais les installer.
Ah oui, ils sont bons.
Ouais.
Pas là.
Allez. Identification, la coque, c'est bien ça.
893.
Blanche.
Non, elle est plus blanche. Elle est multicolore.
Ah.
La coque ?
Ouais, la coque. Maintenant, c'est avec des petits bonhommes.
Multicolore, psychédélique.
Acide techno. Ah.
Pendant une heure, Callisto est retourné dans tous les sens.
Attends, je coupe ça. T'as dit quoi, pardon ?
Pile à combustible, non.
Non.
Hydrogénérateur, non.
Hydro, non.
Ok.
Bah, sur un mini,
t'as pas de carburant, donc ?
Non, j'ai pas de carburant.
Non. Et là, tu as tout testé, avec tes quatre panneaux, tu vas être à l'aise.
Je ne les ai pas encore montés, mais non, mais si, en théorie, ça marche très bien. Ouais.
Eh bien, on a fini.
Ouais, super.
Voilà, allez.
Bon, allez.
Eh ben merci et bonne course alors.
Navigue bien.
T'as une place de numéro 1 à défendre.
Putain, c'est chaud.
Ah bah ouais.
Que du bonheur.
C'est chaud.
Est-ce que le fait d'avoir gagné la Pornichet Select, ça fait vraiment de toi un favori pour la course suivante?
Complètement. Je vais pas me plaindre de l'avoir gagné, mais c'est sûr que je suis pas forcément à l'aise avec ce statut de... Bah pas de favori, parce qu'on est plein à pouvoir la gagner, celle-ci. Mais parmi les favoris, quoi. Un joyeux bordel, maintenant. Ça s'enchaîne un peu, les deux courses, là. J'aurais bien aimé avoir un peu de pause.
Le jour J, je retrouve Bruno sur le départ de la course.
Salut Bruno.
Salut Domi.
Tu te sens comment?
Je me sens bien, là j'ai enfilé la sèche. Je suis tout équipé, prêt au combat.
Tu peux m'expliquer pourquoi ça va être la castagne?
Au départ, ça va être assez tranquille, mais assez vite, ça va monter. Et ensuite, on va passer le ras de Sein et l'occidental de Sein dans des conditions de mer assez formées. Enfin, ça va être très sportif, avec 3 mètres de vagues d'annoncer et potentiellement du vent contre le courant. Donc, ça forme une mer pas très chouette. Et ce qui est cool, c'est que sur cette course, j'ai un bateau solide. Du coup, je suis pas trop stressé. Là, je suis en train de retendre mon gréement en prévision de ce vent fort. Et par exemple, le bateau qui est à côté de moi, le Maxi, là, eux, ils ont un peu peur de casser des trucs dans le bateau parce qu'ils ont des bateaux qui sont un peu plus légers, un peu moins solides. Et c'est possible qu'ils cassent un peu des cloisons.
T'as corrigé le tir sur les trucs qu'on t'avait dit au contrôle de sécurité ?
Ouais.
Combat. Le mot est fort, mais juste. Cette course de la Mini en mai restera gravée dans les mémoires comme l'année où il y a eu plus de 50% d'abandon. Trois jours et cinq heures après, je retrouve Bruno sur le même ponton d'où je l'ai vu partir.
Ça va?
Ouais.
Hey, j'ai pas vomi.
Salut.
Excellent. Roule. Eh ben bravo. Voilà. T'as réussi à pas gerber.
Hein. Ouais.
Tu as un truc pour le mal de mer?
Non.
Non? Ah ouais.
J'ai ouvert le sac et ça pue à la cannelle. En fait, j'aime pas du tout la cannelle. Tu m'as filé très gentiment un pain d'épices. J'ai pas osé le balancer à l'eau. Mais j'ai ouvert le sac. Tu sais, à un moment, je fais allez, je vais me forcer à bouffer. J'ouvre le sac et là. Cannelle, j'étais là, oh non, plus tard.
Bruno finit avec un classement honorable, 6e dans sa catégorie.
Il y a un carnage de course.
Oui, oui, c'est un carnage.
Oui, déjà, arrivé en un seul morceau, c'était la première chose à faire.
C'est ça.
Pas blessé, rien de...
Un attache, un élitreuillage.
Oh la vache.
Bah là, je pense que tout le monde s'attache.
Bah là, c'est clair, tu tombes, tu meurs.
Nous plaisantons sur le pont, contents de retrouver Bruno après ces conditions difficiles en mer. Ses parents sont là, quelques amis aussi. À l'excitation de suivre une course au large se succède parfois l'angoisse d'un accident pour les proches. Mais Bruno veille au grain et monte un groupe WhatsApp où il peut rassurer tout le monde d'un seul message vocal.
Bah ouais, je voulais raconter un peu cette course parce que c'était quand même assez incroyable. En gros, on part dans du vent pas très fort de la Trinité. Et on savait que le vent allait monter au près pour aller jusqu'au ras de Sein.
Le près, c'est une allure au vent qui se dit pour un voilier qui remonte au plus près du vent.
quasiment face au vent, mais en zigzagant, dans un angle serré à 45 degrés. Et le Raz de Saint, c'est un passage maritime entre l'île de Saint et la pointe du Raz, la pointe la plus au sud de la Bretagne.
Ben ensuite, le vent il est effectivement monté, on s'est tous retrouvés prêts à réduire la voilure au fur et à mesure. Et là, il y a les gens qui ont commencé à casser des trucs autour de moi et à abandonner. J'entendais le cross qui commence à être en intervention sur plein de bateaux et tout. À ce moment-là, il y a aussi plein d'autres bateaux, de gens qui se sont un peu découragés et qui ont fait le choix de rentrer chez eux quand ils passaient devant chez eux, donc typiquement à Lorient et puis à Port-la-Forêt, Concarneau et tout. Et du coup, j'ai longé la côte au sud de Pinmar et ça a plutôt bien marché et je ressors devant à Pinmar. J'avais l'impression d'être un cosmonaute, quoi. La mer était blanche autour. C'était un peu irréel, quoi, mais c'était trop chouette. Enfin, moi, j'étais assez serein sur le bateau, je me sentais pas trop en danger, quoi. Ensuite, on va tourner une bouée à Camaret, on repasse Saint, mais côté occidental de Saint, et puis on redescend sous Spi pendant 20 heures jusqu'à l'île d'Oléron. Bah, là, c'était incroyable, la descente sous Spi, c'est un petit avant-goût de la Transat, quoi. On a fait 200 000 en une vingtaine d'heures, un truc genre 10 nœuds de moyenne, quoi.
À ce stade-là de l'explication, si comme moi vous êtes largué, voici la traduction. La vitesse d'un bateau se compte en nœuds. Un nœud égale 1,8 km/h. Donc si Bruno va à 19 nœuds, son bateau fait du 34 km/h. Le mille nautique, c'est l'unité pour mesurer la distance en mer. Et un mille égale 1,8 km. C'est logique. Donc en gros, Bruno a parcouru 360 km sous Spi, le Spi étant une voile hissée à l'avant du bateau pour capter le vent arrière et aller très très vite.
Je savais qu'on était devant, a priori quoi. Et on enroule le waypoint virtuel, on va vers Oléron, et en fait là, ce qui s'est passé c'est que ça a molli pour nous devant, il n'y avait plus de vent et ils sont revenus par derrière. Et là, j'ai eu un petit gap psychologique, j'ai eu du mal à me remettre de ça, de voir les gens revenir si vite et si facilement. J'ai fait une sorte de petite dépression, quoi. J'ai eu du mal à me remettre de ça. Ensuite, en contournant l'île de Ré, j'avais pas trop l'énergie, j'arrivais pas à faire avancer le bateau, j'avais pas mes sensations, etc.
Un waypoint, c'est un point de passage obligatoire en mer fixé par l'organisation de course. Une sorte de balise invisible que tous les skippers doivent contourner, même si c'est pas toujours le chemin le plus direct. Et pour Bruno, ce checkpoint virtuel a marqué le début de la fin.
J'ai mis quand même pas mal de temps à reprendre mes esprits. Je m'étais fait doubler par quelques bateaux. Et puis, la fin de course s'est faite tranquillement. Mais j'avoue que j'ai un tout petit peu un regret sur la fin de course où j'ai l'impression d'avoir pas été assez dedans. Mais c'est aussi un des trucs à travailler, quoi, de réussir à être constant du début à la fin. Mais je suis trop, trop content de ma course où j'ai l'impression d'avoir super bien navigué de la remontée au près et la descente au portant. Après, voilà, on fait toujours des erreurs et 6e, c'est une super place pour moi. Enfin, je suis trop content. J'espère que je vais continuer comme ça dans la saison.
La mini en mai est derrière lui. Mais le plus dur est peut-être devant, car en juin, tout s'enchaîne. Avec, d'abord, le trophée Marie-Agnès Perron, dont le départ a lieu le 1er juin.
Je repars demain à 13h de Douarnenez pour une petite course assez rapide, a priori. Callisto a un nouveau Jenac, donc il n'est pas impossible qu'on puisse faire des merveilles. Je ne suis pas inquiet pour la vitesse. Bon, on verra, c'est une course rapide, 24-30 heures. Là, je pense que ça va être assez chouette et puis dans du vent. Donc voilà.
Une course qui l'épuise.
Et salut, je vous fais mon petit débrief habituel de course. Là, je me réveille, là, je sors d'un coma. J'étais vraiment crevé. C'était une course super speed et très intense physiquement. Vraiment engagé, quoi. On était sous l'eau pendant la moitié de la course et puis j'ai dormi 20 minutes, je pense, une fois 20 minutes. Et quasiment tout le monde ont dormi soit pas du tout, soit 3 fois 10 minutes ou des trucs comme ça. Bon, en gros, là, moi, je fais 13e. Les deux autres, ils font 12 et 11. Et devant, il y a 10 maxi, quoi. Donc, c'était vraiment une course faite pour eux.
Dans la classe mini, tous les bateaux mesurent 6,50 m. Mais ils n'ont pas tous la même tête. Bruno, lui, navigue sur un Pogo 3, un bateau qui a eu son heure de popularité avec un avant plutôt pointu. Mais depuis quelques années, apparaissent des bateaux présentant des bouts arrondis, contrairement aux étraves classiques triangulaires. Ce type de bateau, on les appelle les maxi. Ce sont des bateaux plus stables, plus secs aussi. Et dans certaines conditions, ils ont l'avantage.
Mais voilà, je suis très content. Là, je suis vraiment explosé. Je peux plus me servir de mes mains. Je suis content, la douane, c'est vraiment chouette l'ambiance. Je vais peut-être faire le fastnet sur un proto incroyable. Et puis, sinon, la prochaine course serait Callisto, c'est la Transat.
Quelques jours après, Bruno décide d'accepter la proposition de faire la mini fastnet en double sur le bateau de Robinson Pozzoli, un proto dénommé Woom. Ce dernier a cassé plusieurs éléments sur son bateau lors de la course précédente et ils doivent passer la semaine ensemble à le réparer juste avant le départ le 11 juin. 7 jours et 7h23 plus tard, alors que le duo se positionne 7e sur la ligne d'arrivée, Bruno sera incapable de poser le pied à terre et emmené de toute urgence à l'hôpital. Un mois plus tard, nous nous retrouvons dans mon jardin. Et Bruno revient sur ce qui a provoqué son hospitalisation.
Je pense que c'est un enchaînement de beaucoup de fatigue, avec une saison très dense, etc., qui a fait que je me suis pris cette infection. Avec nos conditions de sommeil, on dort très peu, conditions d'hygiène, on ne se change jamais, et on est un peu humide, et puis conditions d'hygiène de nourriture aussi, enfin de tout. On bouffe quand même pas mal de trucs de merde.
Il m'explique, posément et avec du recul, qu'il n'aurait pas pu anticiper ce qui lui est tombé dessus.
J'étais en mer et je voyais bien que ça n'allait pas, et on n'avait plus de batterie, on avait des problèmes d'énergie. Je ne pouvais pas appeler le médecin de course, donc je n'ai pas pris d'antibio. Mais je ne pensais pas que c'était en fait une infection, parce que j'avais juste un hématome à cet endroit-là. En fait, il s'avère que c'était un staphylocoque doré, et donc je me suis retrouvé à l'hôpital. Je suis arrivé à terre, je pense que mon corps il a tout relâché.
Le corps a cette ambivalence. Il protège, mais il peut aussi mettre en péril, en puisant trop loin dans les ressources.
Avant de partir en course, j'aurais dû voir certains signaux, mais une fois que j'étais en mer, il a complètement retenu le truc. Clairement, j'ai passé 3 jours avec une grosse infection au tibia et je faisais tout pareil normal, quoi. C'était gênant pour dormir et ça me gênait sur certains trucs, mais ça me freinait pas pour naviguer. Et je suis arrivé à terre et là, tout s'est relâché d'un coup et il était hors de question que je puisse naviguer 1 heure de plus. Donc je pense que le corps retient quand même vachement de choses dans ce moment où on est en course et où on est embarqué, où il y a une forme de tension et quelque chose qui nous tient, en fait, qui nous empêche de lâcher, quoi. Donc ensuite, j'ai fait la petite case hôpital, et quand même pendant 8 jours, avec une opération, et avec pas mal de craintes que l'infection se développe, puisse passer dans le sang, voire aussi dans l'os. Sur le coup, j'ai pas trop réalisé, mais en fait, je pense que c'était super grave ce que j'ai eu. Et je passais pas très loin d'avoir des grosses séquelles à la jambe, voire des choses encore plus graves. Et là, je suis en convalescence, ça se remet petit à petit, mais voilà, c'est mon corps, il m'a clairement dit stop, quoi.
Je me demande comment il envisage la mini Transat.
Si je dois être très honnête, là, la blessure et tout, ça m'a mis un petit coup quand même de mou et je ressens une petite perte de confiance en moi, mais qui est due au fait que je peux pas naviguer là tout de suite. Et donc forcément, ça m'éloigne un petit peu du bateau d'une certaine façon, ça casse un petit peu la cohésion que j'ai avec. Peut-être que j'aurais dû m'écouter plus. Il faut pas avoir de regrets sur ce genre de choix, mais en tout cas, je pense que mon corps m'avait déjà lancé des signaux et c'est fort possible que je paye ça, quoi. C'est dur.
Il reste 2 mois avant le départ de la mini Transat, le 24 septembre. Bruno est censé peaufiner ses manœuvres, réviser son matériel, naviguer, mais non. Et c'est là que tout bascule, parce qu'après avoir été le plus rapide, Bruno doit maintenant ralentir. C'est vital. Sera-t-il prêt à temps ? D'ailleurs,
Le jour J aura-t-il lieu? Rien n'est moins sûr.
Là, je vous laisse ce message déjà pour vous dire que le départ de demain a été supprimé. C'est décalé à je ne sais pas quand encore.
La suite, dans l'épisode 4. Bon vent et bonne mer. Écriture, réalisation, montage, Domitil de Vevey. Mixage et soutien inconditionnel, Fabien Bourlier. Musique, Chamaille. Photographie, Vincent Olivo. Création visuelle, Julia Luisa. 6m50 est une histoire originale soutenue par la brasserie artisanale Aérofab. Ensemble, nous avons créé une bière dont l'étiquette reprend le visuel imaginé par Julia Luisa pour Callisto. Vous avez aimé ce podcast? Parlez-en autour de vous. Merci.
Parfait, elle est bonne celle-là.